La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour à toutes et à tous. En France, les services publics remplissent des fonctions centrales en matière de cohésion sociale et de transformation de la société. Les priorités collectives sont en train de muter, ou plutôt de s'enrichir de nouveaux enjeux. Tout comme moi, chers auditeurs, vous avez constaté que ça a changé, mais, paraît-il, ce n'est pas fini. À ce jour, nous pouvons identifier un certain nombre de défis que les collectivités ont ainsi à relever dans leur fonctionnement quotidien. Mais qu'en est-il de nos voisins européens? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir M. Emmanuel Laurent, actuellement chef de projet hébergement d'urgence à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Vous avez été auparavant chef de division responsable pendant 9 ans des unités spécialisées du service social de la ville de Lausanne. Aujourd'hui, c'est votre expérience professionnelle en Suisse qui nous intéresse. Vous allez nous présenter les diverses adaptations auxquelles a dû faire face le personnel de la collectivité de Lausanne durant votre présence. Bonjour Monsieur Laurent.
Bonjour Monsieur.
Monsieur Laurent, avant d'aborder le sujet de l'émission, pourriez-vous présenter la collectivité de Lausanne à nos auditeurs et auditrices?
Oui, bien volontiers. Donc Lausanne est une ville du bassin lémanique, au bord du lac Léman, de 140 000 habitants. Elle se caractérise par un budget assez élevé pour une collectivité de cette taille, hein, comparativement aux collectivités françaises, avec 1,5 milliard de budget de fonctionnement. 5 000 agents travaillent dans cette collectivité, répartis en 40 services. Pour ma part, je travaillais au service social de la ville de Lausanne, qui compte 300 collaborateurs, et qui est chargé de deux missions principales. La première, c'est d'être au service de l'État de Vaud pour calculer et verser le revenu d'insertion, donc l'équivalent de notre RSA. À ce titre, le service social est autorité d'application de l'État. Et puis, deuxième mission, la ville a sa propre politique sociale avec un ensemble de dispositifs d'aide aux plus pauvres qui concernent le logement, l'insertion, la formation ou le surendettement. Moi, j'étais en charge de cette deuxième partie des politiques, des dispositifs et politiques sociales communales.
Oui, comme vous avez pu l'entendre, en France, les services publics sont en situation de mutation au regard de nouveaux enjeux sociétaux nécessitant d'adapter tout ou partie des modes d'administration locaux. Pourriez-vous nous dire ce qu'il en est concernant la Suisse ou tout du moins la collectivité de Lausanne?
Oui, alors de façon un petit peu contre-intuitive, le principal enjeu auquel nous devons faire face en Suisse, ou j'ai dû faire face dans le cadre de mes fonctions, c'est l'augmentation de la pauvreté. Alors ça peut vous paraître un petit peu étonnant d'un pays qui se classe très souvent dans le haut de l'échelle en termes de PIB par habitant, sauf que la pauvreté relative est en augmentation en Suisse. Les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique montrent qu'on est passé de 6,7 à 8% de personnes en situation de pauvreté en Suisse entre 2014 et 2017. Il y a plusieurs facteurs. L'un de ces facteurs, c'est la cherté et la rareté du logement. Sur l'arc lémanique, la tension sur le marché locatif est extrême et donc c'est très très compliqué de se loger. C'est évidemment sur les plus pauvres que cela retombe. Les conséquences, si vous voulez, qui est un enjeu, un défi pour les collectivités, c'est d'accompagner l'exclusion provoquée par cette cherté du logement des personnes les plus pauvres. Un exemple très simple, le nombre d'expulsions du logement réalisées en Suisse est le double du nombre d'expulsions réalisées en France. Il y a 0,5 pour 1000 habitants en Suisse, 0,25 pour 1000 habitants en France. Donc, certes, les salaires sont plus élevés, mais le risque, l'exposition au risque pour les plus pauvres est également très élevé. Et on peut dire le double. Nous, par rapport à cette situation, nous avons mis en place à Lausanne un dispositif qu'en France on appelle intermédiation locative, que nous appelions tout simplement dispositif logement à Lausanne et qui consiste à louer des appartements, nous, en direct, collectivité, et à les sous-louer aux personnes qui sont en situation d'expulsion. C'est ce dispositif que j'ai non pas créé, vu qu'il a été créé avant mon arrivée à la fin des années 2010, mais que j'ai transformé et que je pourrais vous exposer.
Effectivement. Donc là, c'est une situation actuelle et vous avez des perspectives. Il y a eu des perspectives de prévues pour l'évolution de ce marché locatif ou pas?
Alors, nous, on ne peut pas agir directement sur le marché locatif et quelque part, on est un des acteurs de ce marché vu qu'on capte des objets sur le marché au même titre que n'importe qui. Mais la conséquence, si vous voulez, de ce que je viens de dire, c'est-à-dire de la cherté du logement, de l'augmentation de la pauvreté, elle a eu trois conséquences directes sur nos activités au service social. Le premier, c'est les coûts des relogements en hôtel que nous faisons. C'est très simple, ça a été multiplié par 6 en une dizaine d'années. En une dizaine d'années, on est passé de 500 000 euros à plus de 3 millions d'euros de dépenses liées à l'hôtel pour héberger des gens sans domicile. Donc on est passé d'un phénomène marginal à un phénomène massif. À mon arrivée en 2012, on était au pic de ces coûts d'hébergement en hôtel et il a fallu agir en la matière. La deuxième conséquence, c'est le blocage du parc. Évidemment, comme les gens, notre parc de logement que j'évoquais tout à l'heure, d'intermédiation locative, comme nos gens n'arrivaient pas à sortir de nos dispositifs parce que le logement sur le marché libre était trop cher, ils restaient chez nous. Et donc, l'ensemble de nos dispositifs étaient quelque part bloqués, figés par des personnes qui ne pouvaient pas sortir. Or, les nouveaux entrants, eux, arrivaient toujours. Troisième conséquence, c'est un petit peu la synthèse des deux premières, c'est qu'il y a une crise, il y avait une crise systémique de notre modèle. Donc, il fallait changer de modèle. C'est ce que j'ai mis en œuvre dès mon arrivée et à partir de 2013.
Tout ça, ça veut dire que derrière, vous avez dû revoir vos organisations du travail ou pas?
Exactement. Exactement. La conséquence, c'est qu'à la fois, il fallait développer une vision qui intègre eh bien les nouvelles données que j'ai exposées là et implémenter cette vision auprès des collaborateurs. J'ai dit en introduction qu'il y a 300 collaborateurs au service social, donc on a beaucoup d'assistants sociaux, on a une centaine d'assistants sociaux généralistes, ainsi que des assistants sociaux spécialistes, il fallait les embarquer, si je puis dire, tous, avec notre vision et s'assurer que cela porte ses fruits. Alors, plus concrètement, notre vision et les solutions qu'on a développées, elles étaient en trois axes tout à fait complémentaires et c'était ça qui était difficile, c'était de maîtriser ce processus en parallèle. Première solution, c'était de développer l'offre de logement. Parce que si les gens, ils viennent nous voir, ils viennent frapper à la porte du service social de la ville de Lausanne, c'est pas pour avoir des conseils, c'est pour avoir un logement. C'est parce qu'ils ont épuisé toutes leurs ressources personnelles pour trouver à se loger et ils n'y parviennent pas. Donc nous, on a développé une offre adaptée, spécifique. On a créé plus de 200 logements sur une période assez courte de 3 ans, de 3-4 ans. Des logements adaptés, c'est-à-dire petits, meublés, dans lesquels on peut entrer très rapidement et sortir très rapidement. Ça permet d'assurer la fluidité, c'est-à-dire ça permet de faire sortir les personnes de nos dispositifs en intégrant un marché. La deuxième solution, c'était de maîtriser le processus décisionnel au point de départ de l'accès à l'hôtel. Je l'ai dit tout à l'heure, forte croissance de l'hôtel. Comment on fait pour stopper cette croissance? À la fois, il faut assurer une sortie, je viens de le dire, vers le logement, et en même temps, à l'entrée, maîtriser la façon dont les gens entrent à l'hôtel et pourquoi ils y rentrent, et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'ils y sont. C'est ce processus décisionnel-là qui était l'enjeu managérial, si je puis dire, essentiel. Parce qu'il fallait convaincre tous les assistants sociaux généralistes qui faisaient l'orientation, que ça n'allait plus être eux qui allaient le faire. Mais, et c'est tout l'idée de la réforme, l'orientation vers l'hôtel devait être faite par des assistants sociaux spécialistes du logement, qui étaient dans mes équipes, de façon à ce qu'il y ait une évaluation à l'entrée, un accompagnement ensuite et des propositions de sortie. Donc c'était toujours les assistants sociaux généralistes qui identifiaient les personnes, mais nous les adressaient, ça pouvait constituer quelque part une étape supplémentaire, mais qui s'est avérée en fait beaucoup plus pertinente et juste parce que une évaluation pouvait être faite et des solutions adaptées. Ça c'était le deuxième point, la maîtrise du processus. Et le troisième, c'était évidemment engager des négociations avec les partenaires, à savoir les hôteliers, pour tout simplement faire baisser les prix. Le prix moyen d'une chambre d'hôtel pour une personne à l'aide sociale à Lausanne, c'est 60 euros la nuit. En France, c'est 20 euros. Voilà. C'est trois fois plus, ce qui est beaucoup plus que le rapport de qualité de vie. Donc il fallait agir là-dessus et on a pu faire un gros mouvement massif auprès des hôteliers, de sorte qu'on puisse faire baisser les prix. La contrepartie, c'est qu'on leur a dit « Ok, mais on vous achète l'ensemble des places de votre hôtel pour une durée d'un an conventionnée, de sorte que vous soyez assurés de vos revenus. » Donc voilà, les enjeux, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est faire adhérer les assistants sociaux, qui pouvaient se sentir peut-être dépossédés, hein, on leur retirait le pouvoir, entre guillemets, de placer directement quelqu'un à l'hôtel. On leur a dit que ça allait plus se passer comme ça, avec l'assurance que une approche plus qualitative allait pouvoir être déployée. L'enjeu de faire fonctionner un nouveau modèle à coût constant, il n'existait pas d'être inflationniste, on avait atteint un petit peu le pic des dépenses d'hôtel, et donc notre nouveau modèle devait être déflationniste, ça devait coûter moins en faisant comme ça. Et puis enfin, il y avait la question des opportunités sur le marché immobilier. Alors on a peut-être eu de la chance ou pas, je ne sais pas, le fait est qu'on a su capter un certain nombre d'opportunités, c'est des hôtels, des vieux hôtels à vendre, des bâtiments dans lesquels on pouvait faire de l'intercalaire, c'est-à-dire un bâtiment qui allait être détruit. J'ai l'exemple d'une auberge de jeunesse de 80 chambres, 80 lits, qui allait être détruit dans le cadre des travaux de la gare et que l'on a pu exploiter durant 2 ans pour faire de l'hébergement temporaire. Ça, c'est des opportunités, ça veut dire qu'il faut être prêt à aller très vite pour reprendre la gestion du bâtiment et déployer le nouveau modèle et l'intégrer dans notre structure. On l'a fait 5 ou 6 fois, saisir des opportunités. On a également transformé des bureaux en logements avec le processus administratif qui va avec. Donc voilà, il faut être très ouvert sur ce que propose le marché, hein, sur ce qui est disponible en termes locatifs, que ce soit des hôtels ou autres, pour l'adapter dans son propre modèle.
D'accord. Est-ce que ça veut dire que dans vos équipes, il y a des nouveaux métiers qui ont émergé ?
Non, pas spécialement, parce qu'on était toujours sur les choses extrêmement traditionnelles, c'est-à-dire 2 principaux métiers. D'une part, la gérance, c'est-à-dire ce qu'on appelle la gérance en Suisse, c'est-à-dire la gestion locative immobilière, comme métier assez classique, avec une grosse dimension technique quand même, à la fois juridique et purement technique au sens où il faut réparer quand il y a un truc qui est cassé. Et c'est le premier volet. Et le deuxième, c'est évidemment l'accompagnement social qui reste toujours le même avec des objectifs, un point de départ et un point d'arrivée.
Et comment vous voyez l'avenir de ce service social ? Il va être de plus en plus près de l'homme ou il prend du recul par rapport avec une interface faites de l'informatisation, etc., pour préparer les dossiers.
Non, je pense pas. On est toujours à l'écoute de la demande. C'est le point de départ et c'est le point d'arrivée. La question, c'est qu'est-ce qui se passe entre deux. Bien sûr qu'on informatise le processus, on le documente, mais tout cela a un seul et unique objectif, qui est d'aider la personne à aller mieux, l'aider à s'insérer dans la société, l'aider à réaliser ses capacités et son projet de vie.
D'accord, donc humaniser vos activités toujours.
Toujours.
Écoutez, Monsieur Laurent, notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup de votre témoignage et de votre regard porté sur la question de l'organisation du travail à venir, voire du futur. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes ancien élève de l'INET et chef de division responsable pendant 9 ans du service social de la ville de Lausanne, localisée en Suisse. Merci.
Merci à vous.
Quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.